La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre du message de l'étude de ce soir est « Le seul Dieu ». Et je tiens à dire, en guise d'introduction, pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine précédente, il y a certainement des choses qui vont peut-être vous paraître bizarres à entendre. Parce que ce que nous allons voir durant ce week-end, du moins ce soir, demain et dimanche, sont des choses qui vont venir se poser sur ce que nous avons vu la semaine précédente. Mais je pense qu'en elles-mêmes, elles seront suffisamment claires pour nous aider à comprendre ce que la parole de Dieu a à nous dire. Et afin de commencer, je vous inviterai à vous rendre avec moi en Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Où nous rendons-nous pour commencer? Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Et là, en Deutéronome 6, verset 4, il nous est dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Voyez-vous, ce verset que nous lisons en Deutéronome 6, verset 4, établit le judaïsme comme étant une religion monothéiste. Et le terme qui est traduit par le seul ici dans ma version, dans votre version vous avez certainement un, eh bien cela vient de l'hébreu Ehad. Et voyez-vous, Ehad signifie union ou un. Cela est traduit parfois par seul, ce qui peut avoir le même sens. Et lorsque le texte biblique nous dit que Dieu est le seul éternel, pour les Juifs, il s'agissait d'une unité individuelle, ce qui est démontré en Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Je vous invite à vous rendre avec moi à présent en Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Où allons-nous?
Marc 12, versets 28 à 34.
Alors allons-y. Marc 12, Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 28 à 34. Alors, un des scribes qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements, c'est, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. » Et le scribe lui répondit, « C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit, « Tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Est-ce que Jésus lui a dit, tu fais erreur? Est-ce que Jésus lui a dit que Non, non, tu te trompes. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit à l'homme, mes amis? Qu'est-ce que Jésus a dit à l'homme qui lui a dit, « C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a que Dieu et qu'il n'y a point d'autre que lui. » Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Voyez-vous, si le scribe avait eu une vision erronée de la divinité, Jésus ne lui aurait pas dit ça. Jésus lui aurait dit, « Non, 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 mon ami, tu fais erreur. Tu fais erreur. » Car la divinité ne se compose pas de cette manière. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui a dit, voyez-vous. Car Moïse était le ministre de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance. Et Jésus, quant à lui, était le ministre de la Nouvelle Alliance. Et la raison pour laquelle je vous précise cela, chose que vous, qui doit vous paraître évident, c'est parce que ni Moïse, ni Jésus, et encore moins un prophète, a parlé que la divinité, ou si vous préférez, tout du moins que Dieu, pour être plus précis, eh bien, est composé de trois personnes, ou de trois êtres, de manière à être plus précis, de trois êtres. Et la doctrine de Jésus à ce propos se trouve en Jean chapitre 17, versets 1 à 3. Où nous rendons-nous?
Jean 17, verset 1 à 3.
Allons-y alors. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, remarquez qu'il s'adresse ici au Père, hein, d'accord? Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Voyez-vous, ici, Jésus-Christ attribue le titre du seul vrai Dieu au Père. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Jésus-Christ qui le fait. Et voyez-vous, le credo du monde chrétien œcuménique, quant à lui, eh bien, déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais, à côté de cela, la Bible nous dit que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Vous avez peur de dire amen à cela? Non. Nous ne devrions pas avoir peur de dire amen à cela, mes amis. Mais alors, si le texte nous dit que Jésus, que le Père, est le seul vrai Dieu, ne devrions-nous pas conclure que Jésus serait un faux Dieu? Pensez-vous qu'il nous faut arriver à cette conclusion-là? Non, mes amis. Nous n'avons pas besoin d'arriver à cette conclusion-là. Car, voyez-vous, le terme qui est traduit par « vrai » en Jean, chapitre 17, verset 3, eh bien, vient du grec « aletinos ». Et ce terme grec « aletinos » signifie « réel, véritable, authentique ». En fait, ce mot contraste les réalités avec leur ressemblance. Et donc, ainsi, Jésus-Christ, ce texte veut nous dire... Jésus était en train de dire, lorsqu'il déclara cela, que il est la ressemblance de Dieu. Ce texte-là, en fait, se connecte à tous les textes qui nous disent que Jésus est l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit cela. C'est en raison de cette vérité-là, en fait. Jésus voulait mettre l'emphase ici sur son Père en tant que réalité de qui il est l'image. Et mes amis, nous, voyez-vous, ce texte n'est pas isolé. En effet, nous lisons cela également de, par la plume de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Où allons-nous à présent? Alors allons-y. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Pour voir comment cette vérité n'était pas isolée. 1 Corinthiens 8, verset 6. Et là, qu'est-il dit? Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. D'après l'apôtre Paul, qui est le seul Dieu ici? C'est moi qui le dis ou c'est la Bible qui le dit? D'accord. Voilà. Allons voir si l'apôtre Paul était isolé dans son enseignement lorsqu'il disait ça. Éphésiens 4, versets 5 et 6. Où allons-nous? Allons-y. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6. Il est dit ici, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Qui est le seul Dieu ici? Le Père. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis. De manière à clarifier la chose, nous allons prendre le troisième texte de la plume de l'apôtre Paul. En 1 Timothée 2, verset 5. Cette fois-ci. Timothée, chapitre 2, et au verset 5. Qu'est-il dit ici? Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus Christ, homme, nous est-il précisé. La Bible est formelle, mes amis, n'est-ce pas? Ne trouvez-vous pas que la Bible est cohérente dans ce qu'elle dit? Le seul vrai Dieu, ou le seul Dieu, si cela pour être équilibré dans ce que la Bible déclare, eh bien, il nous est dit qu'il s'agit du Père. Mais une fois de plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le credo du monde chrétien nous dit qu'il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque dans le monde chrétien vous parlez de Dieu, la quasi-totalité des chrétiens vous disent qu'il s'agit que Dieu, l'être que l'on appelle Dieu, se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose. Lorsque vous allez sur YouTube et que vous tapez, vous connaissez certainement un pasteur adventiste dénommé Carl Johnson, n'est-ce pas? Le très respecté Carl Johnson. Je ne vais pas en ce soir mal parler de cet homme. Je vais juste vous montrer ce que ce pasteur a déclaré, pour que vous puissiez bien saisir quelque chose. Car, comme nous l'avons vu dans la Bible, mes amis, il est clair que lorsque l'on parle du seul Dieu, il n'est pas question de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Cela va peut-être choquer certains que j'insiste là-dessus, mais j'aimerais bien vous montrer et souligner que cela est biblique, mes amis. Maintenant, nous allons écouter. Lorsque vous allez sur YouTube, vous tapez Carl Johnson et vous tapez « Après quel Dieu ?» Et vous vous rendez sur cette vidéo et vous allez à la minute 41. Je le fais devant vous pour que vous puissiez le faire après chez vous et pour que vous puissiez bien réfléchir à ce qu'il déclare.
C'est le manifeste du Dieu de l'espérance. Eh bien oui, il nous aime tous. Oui, il ne sait pas compter. Et déjà, par rapport à sa nature, il nous met en difficulté. Je suis trois, mais je suis un. Allez comprendre. Père, Fils et Saint-Esprit égale un. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique logique. Des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si claire. Je m'étonne parfois dans nos milieux que des gens en parlent avec une certaine facilité, comme s'ils ont découvert le secret. Ils en font des séminaires sur ce concept de Trinité. Et je vous rappelle, c'est important.
On va faire une pause ici. Qu'est-ce que le pasteur Carl Johnson a déclaré? Ok, bon, vous n'avez pas... Il faut remettre ça, parce qu'il faut que vous suivez ce qu'il a dit. Vous n'avez pas eu le choc?
Les sauterelles.
Pardon?
Les sauterelles.
Les sauterelles?
On dirait qu'il a dit les sauterelles.
Non. Ok. Alors, j'ai un document parce que j'ai retracé. Laissez-moi le prendre tout de suite. Il a dit, Dieu, il nous aime tous. Oui, il ne sait pas compter. Et déjà par sa nature, il nous met en difficulté. Je suis trois, mais je suis un. Allez comprendre. Père, Fils et Saint-Esprit égale un. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si claire. Et je m'étonne parfois que dans nos milieux, des gens en parlent avec une telle facilité, comme s'ils en avaient découvert le secret. Ils en font des séminaires de ce concept de Trinité. Faisant référence à des gens comme moi, par exemple. Nous, avec Pasteur David. Vous n'avez pas eu un choc quand je vous ai lu ces paroles? Dites-moi quel est l'âge de l'Église adventiste du 7e jour, mes amis.
150.
Grosso modo, 70, 170, on pourrait dire, si on compte le millénarisme. Alors pourquoi il dit qu'il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens? Il ne fait pas allusion aux adventistes, là. Attendez, non mais il faut que le choc vous parvienne quand même, parce que sinon c'est pas bon. Je vais vous relire ça. L'adventiste n'a que 100 et quelques années, même pas 200 ans, mes amis. Ok, même pas 200 ans. Et il dit, il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si clair. Je vous pose une question. À quel concile fait-il référence ici, le pasteur Carl Johnson? Un pasteur adventiste, reconnu dans tout le milieu francophone. À quel concile fait-il allusion ici, mes amis? Au concile de l'Église catholique, mes amis. La raison pour laquelle je vous ai montré cela, c'est pour que vous puissiez bien comprendre, que vous soyez d'accord avec cette doctrine à l'heure actuelle ou pas, que vous puissiez bien savoir que la Trinité adorée par la dénomination des Adventistes du 7e jour en 2017, je veux dire, si vous préférez, moderne, est bel et bien la Trinité qui a pris naissance dans les conciles catholiques, mes amis. Ce n'est pas moi qui vous le dis, je ne voulais même pas me faire confiance. Je ne suis peut-être pas digne de confiance à vos yeux, mais faites confiance à ce pasteur qui a certainement 40 années de ministère derrière lui, qui est connu parce que c'est un Mauricien, n'est-ce pas? Il est certainement connu à La Réunion, il est connu en France et aux Antilles, même au Canada d'ailleurs. Dans toute la francophonie, ce pasteur est une référence, pour ainsi dire. Et devant tous ses confrères, et à la Fédération France Nord où il est pasteur, il déclare ouvertement que le Dieu de l'Église adventiste du 7e jour moderne a pris naissance, je paraphrase, dans les conciles de l'Église catholique. Mais qu'avons-nous lu ici, mes amis? Qu'avons-nous lu ici? Peut-être que vous ne comprenez pas encore ce qui se passe. Peut-être que nous ne comprenons pas encore ce qui se passe. Mes amis, ce que nous avons découvert dans la Bible, il y a de cela quelques minutes avant de regarder la vidéo du pasteur Carl Johnson, eh bien, devrait être suffisant pour comprendre que Dieu est un être personnel. Mais si, comme Carl Johnson, vous n'êtes pas d'accord avec la Bible, avec ce que nous avons découvert avec ces quatre versets, celui de Jésus notamment, et les trois de Paul, qui sont vraiment très clairs concernant Dieu, où il dit que Dieu, c'est le Père, et non pas Père, Fils et Saint-Esprit, comme il dit. Eh bien, mes amis, si, comme Carl Johnson, vous n'êtes pas d'accord avec la Bible, permettez-moi de vous dire avec regret que vous ne serez pas non plus d'accord avec l'esprit de prophétie. Dans le livre « Message choisi », volume 1, à la page 344 et au paragraphe 2, Ellen White déclare, contrairement à Carl Johnson qui dit que Dieu est égal Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il y a un Dieu personnel, virgule, le Père, point virgule. Ça veut dire que là, on passe à autre chose et que la première clause est terminée. Il y a un Christ personnel, le Fils. Mes amis, je vous le répète, si nous ne sommes pas d'accord avec la Bible lorsqu'elle nous dit qu'il y a un seul Dieu et que ce seul Dieu, c'est le Père, eh bien, on a alors un problème également avec l'esprit de prophétie qui dit la même chose que la Bible, en fait. Il y a un Dieu personnel, le Père. Il y a un Christ personnel, le Fils. C'est ce que l'esprit de prophétie déclare, mes amis. Et considérons à présent comment la Bible présente la personnalité de Dieu et du Christ. Pour ce faire, commençons par nous rendre en Zacharie, chapitre 6, versets 12 et 13. Où allons-nous? Ok. Et parle-lui en ces mots. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Celui-là rebâtira le temple de l'Éternel. Celui-là obtiendra la majesté. Il siégera, il règnera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et il se fera, entre les trois, un dessein de paix. C'est cela? Non. Non? Pourquoi tu dis non, ma sœur? Ah, entre les deux! D'accord. Donc, le dessein de paix se fait bien entre deux personnes, deux êtres, en fait. C'est cela que nous devons lire? Est-ce que c'est cela que notre Bible nous dit? Est-ce que c'est ça que votre Bible vous dit, mes amis? Mes amis, le germe juste, il s'agit de Christ, de Jésus-Christ, mes amis. Et voyez-vous, Christ est l'unique associé de Dieu le Père dans l'œuvre de la création ainsi que celle de la rédemption. Nous avons beaucoup de matériel à considérer ce soir. C'est pour cela que la section qui va suivre, je me permettrai, comme la fois précédente, je vous avertis, de faire défiler pas mal de textes parce qu'il y a beaucoup de matière à considérer à ce propos. Mais je vous invite à noter et, comme les Béréniens, à examiner pour voir si ce que la Bible nous dit à cet égard est véridique. De Corinthiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Paul était apôtre de Jésus-Christ. Et par la volonté de qui, mes amis?
De Dieu.
De Dieu. Galates 1, 3. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que lorsque vous prenez tout le début de chaque épître, mes amis, de l'apôtre Paul, et même jusqu'à Pierre et Jean, presque toutes, vous avez toujours la salutation qui commence et qui inclut la grâce et la paix ou quelque chose de ce genre qui vient de la part de Dieu et de Jésus, ou Dieu le Père et de Jésus, ou du Père et du Fils, ou toujours, mes amis. Marquez-le, allez le vérifier ce soir, mes amis. Parce que là on n'aura même pas le temps de prendre tous ces textes-là. Vérifiez que dans toutes les épîtres, Paul, Jean, etc., ou dans quasiment toutes, je veux dire, vous avez à chaque fois une salutation de ce genre. Notez-le et vérifiez. Éphésiens 1, 2. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En voilà un autre exemple. Colossiens 1, 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère. 1 Thessaloniciens 1, 1 et 2. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Jacques 1, 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salut. 2 Pierre 1, 2. La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Jean 3. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Un dernier verset pour clore cette section. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, je tiens à peut-être rassurer certains esprits en leur disant que demain, nous allons considérer le sujet du Saint-Esprit. D'accord? Mais en ce soir, comme vous le savez, nous considérons le sujet de Dieu. Et plus précisément, comme nous l'avons vu au départ, le sujet du seul Dieu, d'accord? Et en fait, nous avons déjà clôturé cette partie-là, et là, nous nous intéressons à la personnalité de Dieu et aux relations qu'il y a maintenant entre Dieu et Christ. Alors, c'est ça que nous allons faire à présent. Nous allons entrer dans cette deuxième section, des relations entre Dieu et Christ. Et, voyez-vous, mes amis, les relations entre Dieu et Christ sont que Christ est le Fils de Dieu. Matthieu 26, versets 63 et 64 nous le dit. « Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, et même, je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Les relations entre Dieu et Christ sont que Christ a été abandonné de Dieu. D'après ce qui nous a été dit en Matthieu 27, verset 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les relations entre Dieu et Christ sont également que Christ adora Dieu. En Marc 14, verset 35. Et s'en allant un peu plus en avant, il se prosterna contre terre, priant que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Je ne pense pas que Jésus s'est prosterné pour se prier lui-même, voyez-vous. Continuons. Les relations entre Dieu et Christ sont que Dieu a donné la vie au Christ. Car, en Jean 5, verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Les relations entre Dieu et Christ sont que Dieu exauce le Christ, voyez-vous. En Jean 11, verset 42, « Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. » Les relations entre Dieu et Christ sont également que, eh bien, Christ est sorti de Dieu. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont connu que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Les relations entre Dieu et Christ sont aussi que Christ priait Dieu. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Les relations entre Dieu et Christ, mes amis, sont que Dieu est le Père du Christ et que Dieu est le plus ou moins, Dieu est le Père du Christ et que Dieu est le Dieu du Christ. Je répète ça. Les relations entre Dieu et Christ sont que Dieu est le Dieu du Christ et que Dieu est également le Père du Christ. Notez cela dans Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Les relations entre Dieu et Christ sont également que Dieu a ressuscité le Christ entre les morts, selon ce qui nous est dit en Actes 2, verset 24. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Les relations entre Dieu et Christ, mes amis, voyez-vous, sont également que Dieu est le chef du Christ. En effet, en 1 Corinthiens 11, verset 3, il nous est dit « Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Les relations entre Dieu et Christ, mes amis, sont également que Christ sera toujours soumis à Dieu. Et en 1 Corinthiens 15, verset 28, « Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses. » Afin que Dieu soit tout en tous. Les relations entre Dieu et Christ sont également que Christ a hérité le nom de Dieu. En effet, en Hébreux 1, 4, il nous est dit, « Ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » C'est le nom de Dieu, mes amis, qu'il a hérité Jésus. Les relations entre Dieu et Christ, d'après Hébreux 1, verset 5, sont que Dieu a engendré le Christ, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai son père, et il sera mon fils. » Voilà, mes amis, d'après la source suprême d'autorité, voilà, d'après les Écritures, mes amis, que avec desquelles Jésus se servait pour vaincre le malin. Voilà ce qu'il nous est dit, mes amis. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons vu ce qu'Ellen White déclare des hommes qui spiritualisent les textes bibliques. Comment elle les appelle, ces hommes-là, pour ceux qui étaient là? Vous avez peur de le dire? Des faux docteurs, mes amis. Ce n'est pas moi qui le dis. Si c'était moi qui le disais, j'aurais pu avoir des crêtes. Ce n'est même pas moi qui le dis. C'est l'esprit de prophétie qui le dit. Dans la tragédie des siècles. Considérons enfin comment la Bible présente l'unité de Dieu et du Christ. En Jean chapitre 10, verset 30. Où nous rendons-nous? À présent? Là, il nous est dit que moi et le Père, nous sommes un. Carl Johnson disait que Père, Fils et Saint-Esprit égale un. Déjà, dans la forme, il n'est pas d'accord avec ce verset-là. Mais mes amis, lorsque Jésus ici, dit ici que moi et le Père, nous sommes un, est-ce qu'il était en train de dire que Dieu égale père et fils, c'est tout. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu tout à l'heure au début de cette étude, mes amis? D'après la Bible, qui est Dieu, mes amis?
Le Père.
Le Père. Donc déjà, Jésus ne veut certainement pas dire, il ne va pas se contredire, parce que Jésus n'est pas... Il est le témoin fidèle et véritable, donc il ne ment pas, mes amis, voyez-vous, comme on l'a établi la semaine précédente. Non, non, non. La réponse est que non. Dieu... Quand on parle du seul Dieu, il ne se compose pas du Père et du Fils, mes amis. Voyez-vous, la nature de cette unité fut expliquée par Jésus lui-même en Jean 17, verset 11 et au verset 20 à 23. Je vous invite à vous rendre avec moi, à retourner en Jean chapitre 17 et cette fois-ci à considérer le verset 11, toujours dans sa prière. Retournons dans la prière que Jésus adressa au Père en Jean 17, verset 11. Et nous lirons le verset 11 ainsi que du verset 20 à 23. Et nous allons voir la nature de cette unité. Comment Jésus expliqua lui-même. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'interprétations, car Jésus va l'expliquer lui-même en quoi cela consiste, voyez-vous. Jean 17, verset 11. Il déclara, « Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Retenez déjà ça, « Afin qu'ils, donc les apôtres, les disciples, les douze, afin qu'ils soient un comme nous, toi et moi, Père. » Ok? Maintenant, lisons du verset 20 au verset 23. « Or je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. » Combien de disciples Jésus avait-il? 12. Vous êtes sûr de ça? Ah! Il n'avait pas un disciple à 12 têtes? Non! Bien sûr que non!
J'allais demander où ça voulait dire ça.
Ah! Je dis cela, mes amis, car si Jésus avait un disciple à 12 têtes, nous aurions pu conclure que lui et le Père n'étaient qu'une personne, un seul être. À ce moment-là, oui, nous aurions pu conclure cela. Puisqu'à chaque fois, il dit qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. S'il y avait un disciple à 12 têtes, oui. À ce moment-là, nous aurions pu conclure que le Père et le Fils étaient un seul être. Mais tel ne fut pas le cas. En effet, l'unité dont Jésus parle ici est une unité de but, d'esprit et de caractère. Et c'est ce que nous dit la message du Seigneur dans Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 318, du paragraphe 3 jusqu'au paragraphe 5. Je répète pour ceux qui notent, Témoignage pour l'Église, volume 3, page 318, du paragraphe 5 jusqu'au paragraphe, du paragraphe 3 jusqu'au paragraphe 5, excusez-moi. Et elle déclare ceci en commentaire, en guise de commentaire sur Jean 17. Cette unité est exprimée aussi au 17e chapitre de Jean dans la prière du Christ pour ses disciples. Et elle cite Jean 17, versets 20 à 23. Et elle continue. Et prêtez bien attention à la suite. Quelle merveilleuse déclaration! L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit la personnalité d'aucun d'eux. Ils sont un en but, en esprit et en caractère, mais non en personne. C'est ainsi que Dieu et le Christ sont un. Cela a de quoi être clair. Jésus a clarifié la chose et la messagère vient confirmer cela. C'est plus la peine de rajouter grand-chose à présent. Alors, considérons à présent comment la Bible présente les relations du croyant avec Dieu et Christ maintenant. En Jean, chapitre 14, verset 1, la Bible nous dit quelque chose de bien particulier. Où nous rendons-nous à présent? Vous devez connaître ce passage par cœur, je suis sûr. Est-ce que quelqu'un peut me le réciter par cœur, ce verset-là?
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs.
Non, le verset 1.
Croyez en Dieu et croyez en moi.
Mais, excuse-moi, mais. Carl Johnson ne sera pas d'accord avec toi.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il a dit qu'il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, normalement, s'il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tu dois croire en trois personnes. Pourquoi Jésus dit ici c'est la foi, elle s'exerce que en deux personnes? Serait-ce Jésus qui a un problème alors? Serait-ce Jésus qui aurait besoin d'aller dans les écoles de théologie qu'a fréquenté Carl Johnson? Est-ce que vous pensez que c'est le cas, mes amis? Est-ce que vous pensez que Jésus doit aller à Andrews University pour pouvoir nous enseigner concernant son Père? Est-ce que vous pensez que Jésus a besoin d'aller à Collonges de manière à être qualifié pour nous enseigner la vérité sur Dieu, mes amis? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mes amis. Et si vous la pensez, c'est dommage. Car Jésus est le témoin fidèle et véritable. Le croyant, mes amis, doit avoir foi en Dieu et en Christ pour être à la ligne. Il est écrit. Si vous voulez résister contre le malin, mes amis, la parole de Dieu doit être votre seul appui. Mais cela ne s'arrête pas là, entre les relations qu'il doit y avoir entre le croyant et Dieu et Christ. En effet, en 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, où allons-nous à présent?
1 Jean.
1 Jean, 1 à 3. Ah, cette fois-ci, l'apôtre, il commence, il dit au commencement, il fait comme dans l'évangile, au commencement, d'accord? Ok, alors si vous voulez bien comprendre, parce que nous allons expliquer ce texte-là.
Jean 1.
Voilà. La sœur a compris. Justement, parce qu'elle
Jean,
elle sait que ça commence pareil. Et moi, je disais ça, c'est pour vous montrer que si vous voulez comprendre Jean 1, 1 et les trois premiers versets, ce texte-là va vous expliquer, mes amis. Ok? On va l'étudier dans la semaine, dans les jours à venir. Mais là, on considère 1 Jean 1. 1 à 3, parce que là, nous sommes dans la section « Les relations du croyant avec Dieu et Christ ». Et lisons cela. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. » Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Qu'est-ce que Carl Johnson annonce comme divinité? Dieu égale Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, de ce fait, avec qui Carl Johnson met-il en communion les gens qui l'écoutent prêcher? Il les met en communion avec ce qu'on appelle la Trinité. Mais les apôtres, avec qui mettaient-ils les gens en communion quand ils prêchaient? Le Père? Vous êtes sûr? Il est mis en communion avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. C'est très important. Pensez-vous que l'apôtre Jean devait aller à Andrews University et à Collonges pour apprendre à prêcher aux gens? Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. Et voyez-vous, les relations du croyant avec Dieu et Christ se nous sont également expliqués en Jean chapitre 16, versets 1 à 3. Jean 16, versets 1 à 3. Le croyant doit être en communion avec le Père et le Fils, mes amis. Mais maintenant, en Jean 16, 1 à 3, voyons ce qu'il nous est dit. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne vous scandalisiez point. Ils vous chasseront des synagogues. L'heure même vient, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils vous feront cela, parce qu'ils n'ont connu ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est cela que le texte déclare, mes amis?
Ni le Père, ni moi.
Ni le Père, ni moi. Ni le Père, ni moi. J'ai eu l'occasion d'expérimenter cela. Et en réalité, voyez-vous, le croyant, eh bien, quand il y a l'apostasie, il est rejeté par la masse en raison du Père et du Fils, mes amis. Et un dernier point que je souhaiterais vous mentionner se trouve dans Apocalypse 15, verset 3. Où allons-nous? Allons-y. Apocalypse 15, verset 3. Et là, il nous est parlé des 144 000, de ceux qui sont sous la mer de verre. Et remarquez, mes amis, ce qu'ils, leur louange. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô roi des saints. » Moi, j'ai. D'accord? Mes amis, lorsque vous regardez ici et dans toute l'Apocalypse, et je vous invite à revisiter tout le livre de la révélation de Jésus-Christ, ce que l'on appelle l'Apocalypse, lorsqu'il y a quelque chose qui est fait dans le ciel par les êtres célestes, en direction du trône, mes amis, c'est toujours vers qui? Vers Dieu et l'agneau, n'est-ce pas? Alors, comment se fait-il que sur terre, des gens se permettent de louer un troisième être? De prier un troisième être? De mettre en communion les gens avec un troisième être? De placer leur foi dans un troisième être? Alors que, dans toute l'Écriture, dans le « Il est écrit que Dieu nous a confié de manière à pouvoir remporter la victoire », la Bible nous parle de deux êtres en qui nous devons avoir foi, deux êtres avec qui nous sommes en communion, deux êtres à cause desquels nous serons rejetés, deux êtres que, non seulement sur terre, mais également dans le ciel, nous louerons et adorons. C'est quoi ce problème? Dans l'église adventiste du septième jour, en 2017, je pense que nous nous rendons compte que la croyance, le Dieu qui est adoré, certains d'entre vous certainement se rendent compte que le Dieu qui est adoré n'est pas le Dieu que nous sommes en train de découvrir ici. Et le Christ qui y est adoré, et je rajoute, n'est pas le Christ que nous avons vu dans la parole et dans l'esprit de prophétie. Mes amis, voyez-vous, Ellen White a confirmé cela par rapport à la louange. Dans The Youth and Structure, c'est un journal pour la jeunesse. Donc, si vous préférez, si je traduis le titre, l'instructeur de la jeunesse. À la date du 7 juillet 1898, paragraphe 2, Ellen White déclara « Le Père et le Fils seuls doivent être adorés. » Exalté, si vous préférez, exalté. Ce qui revient quasiment au même. Exalté. On va respecter le texte. Le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. Aujourd'hui, on adore trois êtres, mais au 19e et au 20e siècle, ce n'était pas le cas dans l'Église adventiste, mes amis. Ce n'était pas le cas d'après ce que nous lisons ici. J'aimerais considérer maintenant le cas de William Miller. Considérons la croyance que le père Miller avait en 1822. Je dis père Miller parce que c'était le nom affectueux qu'on lui... C'est comme ça que Ellen White l'appelait, le père Miller. Dans le 5 septembre 1822, article numéro 2, il écrivit « Je crois en un seul Dieu vivant et vrai et qu'il y a trois personnes dans la divinité, comme il y a en l'homme le corps, l'âme et l'esprit. Et si quelqu'un me dit comment ceci existe, je lui dirai comment ces trois personnes du Dieu très sont liées. » Wow. Lorsque ici Miller dit « Dieu très », cela signifie « Dieu trinitaire ». Faites une recherche et vous allez comprendre. Tout à fait, il s'agit bien de cela. Et il continue dans l'article numéro 3. Je crois que Dieu, par son Fils, créa l'homme à l'image du Dieu très. avec un corps, une âme et un esprit, et qu'il créa un agent moral capable de vivre, d'obéir ou de transgresser les lois de son créateur. Et cela se trouve dans un ouvrage qui s'appelle Memoirs of William Miller, okay, à la page 77 et 78, et qui a été écrit par Sylvester Bliss, okay, qui était en quelque part un historien du mouvement adventiste. Et cela, eh bien, a été écrit par Miller en 1822 et Bliss l'a publié en 1853. D'accord ? Mes amis, le message du premier ange interpelle les hommes en disant quoi ? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, n'est-ce pas ? Et c'est tout ? Non. Pourquoi ? Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mes amis, ma question sera très simple. Pouvez-vous prêcher ce message tout en adorant un faux Dieu ? Est-ce que vous pouvez demander aux gens d'adorer Dieu et que vous-même vous adorez un faux Dieu ? Non, mes amis. Non. Et voyez-vous, c'est la raison pour laquelle Dieu conduisit, quelques années après, le Père Miller à une véritable connaissance de la divinité avant que le message ne soit largement proclamé en 1844. En effet, en 1842, nous pouvons lire de sa plume que « Je crois en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un esprit omniprésent, omniscient, ayant toute puissance, créateur, sauveur et existant par lui-même. En tant qu'être saint, juste et bienfaisant, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ayant un corps d'une manière et d'une forme semblable à celui de l'homme, divin dans sa nature, humain dans sa personne et divin dans son caractère et sa puissance. Il est un sauveur pour les pécheurs, un prêtre pour Dieu, un médiateur entre Dieu et l'homme et roi en Sion. Il sera tout pour son peuple, Dieu avec nous à jamais. L'Esprit du Très-Haut est en lui, la puissance du Très-Haut lui est donnée, le peuple du Très-Haut fut racheté par lui, la gloire du Très-Haut sera avec lui et le royaume du Très-Haut sur la terre est à lui. Et cela se trouve dans le livre William Miller's Works, volume 1, page 32. Et cela a été publié, comme je vous l'ai précisé, en 1842. Mes amis, comme vous pouvez le voir, cette profession de foi qui a été écrite par le Père Miller 20 ans après la première profession de foi que nous avons lue, eh bien, n'est certainement pas trinitaire. Car voyez-vous, Dieu y est présenté comme le Père du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons lu aussi, Jésus est présenté comme divin en caractère et en puissance. Et remarquez également que l'Esprit du Très-Haut habite en lui. Et cela constitue l'unique référence au Saint-Esprit dans cette confession. Enfin, mes amis, l'histoire confirme que les premiers adventistes, tous les premiers adventistes, mes amis, abandonnèrent la doctrine de la Trinité. En effet, Joshua Vehim déclara, premièrement, ils, c'est-à-dire les adventistes, furent généralement trinitaires. Par la suite, et presque unanimement, ils rejetèrent la doctrine trinitaire comme étant non scripturaire. Leur déclaration qu'ils approuvaient concernant la divinité furent qu'il y a un seul vrai Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est sans origine, indépendant et éternel, le Créateur et le soutien de tous les mondes, et que ce Dieu, une intelligence spirituelle, un esprit infini, toujours le même, qui ne varie jamais. Et que ce Dieu est une intelligence spirituelle, un esprit infini, toujours le même, qui ne varie jamais. Il manque un mot. que Christ est le Fils de Dieu, le Messie promis et le Sauveur du monde. Ici, voyez-vous, le frère Joshua Him indique que la plupart, mes amis, quasiment unanimement, la quasi-unanimité des adventistes, mes amis, eh bien, était trinitaire. Ou tout du moins, je vais reprendre ces mots parce que il dit, ils furent généralement trinitaires, d'accord, au début du mouvement adventiste. Mais qu'aux environs de 1835, ils rejetèrent presque unanimement la doctrine de la Trinité. Mes amis, la Bible et l'esprit de prophétie sont clairs. Et les pionniers aussi, lorsque nous les prenons en considération, nous voyons que la Bible, l'esprit de prophétie, ainsi que les pionniers du mouvement adventiste, ils ont unanimement pris position pour la véritable connaissance de Dieu et de Jésus. Mais voyez-vous, aujourd'hui, l'ennemi cherche à nous ravir la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes en développant parmi nous l'esprit de l'Antichrist. Je répète, Satan cherche à chercher et cherche. Et il a gagné une bataille, mes amis. Je dois vous le dire, il n'a pas gagné la guerre, mais il a gagné une bataille. Car il cherche à développer l'esprit de l'Antichrist. Et à en croire ce que nous voyons de nos jours, je suis obligé de dire qu'il a gagné une bataille, mes amis. Rendons-nous en 1 Jean, chapitre 2, versets 22 et 23. Où nous rendons-nous? 1 Jean 2, 22 et 23. 1 Jean 2, 22 et 23. Savez-vous ce qu'est l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist, mes amis? Si vous ne savez pas ce que c'est, prêtez attention à ce que nous allons lire. Et si vous pensiez savoir ce que cela est, alors lisez quand même cela. Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Non, pas ça.
C'est pas ça?
Non.
Raymond, t'es sûr, mon frère?
Qui nie le Père et le Fils.
Oh!
La deux personnes n'ont pas la...
Oh! Et écoutez la suite, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Mes amis, l'une des caractéristiques de l'Antichrist, que cela vous plaise ou non, en fait, eh bien, est que il y a la négation du Père et du Fils. Est-ce que vous pensez que Satan va gagner la guerre, comme on dit, pour employer les expressions du monde, pour que ça puisse vous parler? Est-ce que vous pensez que Satan va gagner cette guerre, mes amis? Il ne gagnera pas, nous le savons tous. Mais savez-vous que Satan peut gagner quelque chose? Parce que, mes amis, si vous et moi, nous perdons la guerre, Satan aura eu la victoire sur nous. Ce que je veux dire, mes amis, c'est que nous risquons d'être pris dans les pièges de l'Antichrist. Et comme nous l'avons vu en ce soir, il ne fait pas de doute, mes amis, que l'esprit de l'Antichrist a envahi la quasi-totalité de la chrétienté, de ce que l'on appelle le christianisme, mes amis. Car lorsque l'on regarde bien, je ne peux pas dire, avec tout ce qu'on a vu ce soir, je pense qu'il serait difficile de dire que la Trinité peut coller avec ça, mes amis. Comment se fait-il qu'il y a une adoration qui est perpétrée, des louanges qui sont adressées, des foi qui sont placées, et etc., de choses qui sont faites. Et on se réfère au concile de l'Église catholique. Mes amis, tout cela n'est pas très solide, comme vous pouvez le constater. Tout cela n'est pas très solide. Je ne connais pas un seul texte biblique qui me dit que Dieu égale Père, Fils et Saint-Esprit, comme le dit Carl Johnson. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pris ça. Ah, si, il l'a dit, dans les conciles de l'Église catholique. Qu'importe ce que vous pensez du Saint-Esprit, et demain nous allons étudier ça, nous allons prendre 2 heures pour l'étudier, avec le pasteur David Sims, ainsi que moi-même. Mais, la semaine dernière, nous avons clarifié le sujet du Fils de Dieu. Ceux qui n'étaient pas là, c'est vraiment dommage pour vous. Vous avez perdu quelque chose. Enfin, Dieu peut-être, je suis sûr que Dieu vous permettra de pouvoir parvenir à avoir des enregistrements peut-être de ce qui a été, parce que nous enregistrons parfois, ou cela enregistre. Mais ce que je veux dire, c'est que la semaine dernière, on a étudié la doctrine du Fils de Dieu. Ce soir, nous voyons la doctrine du seul Dieu. Demain, nous allons considérer le Saint-Esprit. Et mes amis, quel que soit ce que vous pensez du Fils de Dieu ce soir, ou quel que soit ce que vous pensez du Saint-Esprit ce soir, lorsque la Bible nous dit que le seul Dieu, c'est le Père, qui sommes-nous pour décréter, pour écrire des articles, pour faire des conciles qui durent des siècles, comme a dit Carl Johnson, pour dire que Dieu est non pas le Père, comme le dit l'Écriture si clairement, mais pour dire qu'il s'agit, non, deux points, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a pire que cela, c'est qu'une fois qu'on a créé cette théorie-là, qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va persécuter des gens derrière ça. Parce qu'il y a eu des persécutions qui ont été faites, mes amis. Des gens ont été persécutés parce qu'ils n'ont pas voulu accepter cela, mes amis. Et voilà pourquoi Jésus avait dit en Jean 16, ils vous chasseront des synagogues parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Cela s'appliquait non seulement aux Juifs, mais mes amis, vous pensez que Jésus dit des paroles qui ne vont pas avoir une deuxième application? Bien évidemment. Mes amis, je ne pense pas être plus sage que Jésus. Je ne pense pas être plus sage que l'apôtre Paul. Je ne pense pas être plus intelligent que l'esprit de prophétie manifesté à travers le ministère d'Ellen White. Et quand je vois comment Dieu a conduit le mouvement adventiste et leur a permis de s'aligner avec la Bible, l'esprit de prophétie, qui sommes-nous pour changer ça? Je parle de la doctrine de Dieu. Cela n'est pas solide, mes amis. Donc, je voudrais que nous terminions sur cette note-là, de réfléchir, à savoir, est-ce que nous voulons faire partie de ceux qui seront victorieux? Alors, il y a une victoire, mes amis, certes, l'ennemi ne gagnera pas la guerre. Mais si nous tombons dans les pièges du malin, mes amis, et si nous tombons dans une fausse adoration, ce sera terrible. Mais cela n'est pas obligé d'arriver. Nous avons nos Bibles, comme dit Ellen White. Et si vous vous basez sur la parole de Dieu, et que vous mettez Andrews University de côté, et que vous mettez Collonges de côté, et que vous lisez la parole de Dieu telle qu'elle se lit, dans son ensemble, que vous la prenez comme un ensemble, mes amis, permettez-moi de vous dire, mes amis, que vous n'allez jamais avoir besoin pour défendre votre doctrine devant des milliers de personnes. Vous n'aurez jamais besoin, je vous l'assure, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Vous n'aurez jamais besoin de vous référer, comme l'a fait Carl Johnson, au concile de l'Église catholique, mes amis. Jamais. Il y a des hommes d'expérience qui ont beaucoup d'années dans le ministère, qui ne connaissent même pas la puissance de la parole de Dieu. Et pour appuyer leur doctrine, ils sont obligés, ils se sentent obligés de s'appuyer sur les conciles de Rome. Et vous vous dites un pasteur protestant, et vous vous dites prêcher le message des trois anges, et vous vous appuyez sur les conciles, et vous appelez ça des conciles de chrétiens. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a de chrétien? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans la papauté? Lorsque vous étudiez Daniel, mes amis, Daniel 8, lorsque vous étudiez bien la prophétie de Daniel 8, et ceux qui étaient là la semaine dernière, on l'a vu, en réalité, Daniel nous dit que la puissance papale, mes amis, le système catholique, la dénomination, je ne parle pas des morts, mes amis, il y a beaucoup de gens sincères là-dedans, je ne condamne pas les morts, mais je parle du système, mes amis. Le texte nous dit qu'il s'agit, lorsque vous l'interprétez, qu'il s'agit de christianisme, qu'il s'agit de paganisme, du moins, couvert de christianisme. Voilà ce qu'est, mes amis, le catholicisme. Le catholicisme, mes amis, à l'heure actuelle, la foi catholique, c'est du paganisme couvert de christianisme. Alors, expliquez-moi comment, d'un côté, on dit sola scriptura, et que de l'autre côté, on se réfère à des conciles que l'on qualifie de chrétiens pour défendre une doctrine qui n'est même pas dans la Bible. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un problème? Ce qui était là vendredi précédent, ne pensez-vous pas qu'il y a des piliers qui ont été déplacés là? Ne pensez-vous pas que là, il y a une maison qui va s'écrouler? Lorsque vous êtes obligé pour défendre une doctrine de vous référer à ce que Rome dit? Je vais terminer sur une note positive et je vais le répéter encore une fois. Mes amis, vous n'êtes pas obligés de faire comme cet homme et de faire comme ces milliers de pasteurs comme lui, de vous référer au concile de Nicée et de Constantinople pour dire que votre trinité se base sur ce concile-là, mes amis. Moi, je ne le ferai pas. Et vous savez pourquoi je ne le ferai pas, mes amis? Parce que mon Seigneur et mon Sauveur, votre Seigneur et votre Sauveur également, comment a-t-il remporté la victoire, mes amis? Il est écrit. Comment Carl Johnson veut qu'on remporte la victoire? En se basant sur Rome? Rome qui nous donne la marque de la bête? Non, mes amis. Vous et moi pouvons remporter la victoire avec il est écrit. Et ce soir, nous avons vu il est écrit, mes amis. Réfléchissons à ça. Et voyons quel Dieu nous voulons servir. Amen.
Amen.
Prions. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour nous. Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a versé son sang pour nous racheter. Père, tu désires nous voir remporter la victoire et tu nous as montré par Jésus comment cela est possible. Nous avons vu la semaine précédente que la victoire se trouve dans le fait que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, car c'est là notre victoire. C'est notre foi qui a remporté la victoire, la foi du Fils de Dieu. Et Père, nous voyons davantage de choses dans ce soir. Nous avons vu davantage de choses dans ce soir. Alors nous voulons juste te prier, humblement. Car tu nous dis que les choses cachées sont à toi, mais les choses que tu as révélées sont à nous et à nos enfants. Ce soir, nous n'avons pas sondé des choses cachées. Nous avons juste pris ce que dans ta parole, tu nous as révélé de toi. Sans philosophie, sans théologie mondaine. Simplement, humblement, en mettant les credos de côté, en mettant ce que les hommes peuvent dire, en mettant les conciles de Rome de côté, et en prenant simplement ta parole, comme elle se lit, sans philosophie, sans théologie mondaine. Père, nous t'en supplions. si les choses ne sont pas claires pour nous, veuille bénir notre intelligence, veuille nous bénir en nous donnant une vue biblique de qui tu es, de qui est le Christ, et de manière à être, pouvoir être rempli du Saint-Esprit dont nous avons besoin, Père. Nous avons tous besoin de ton Saint-Esprit, ton Père. Alors, veuille nous l'accorder en abondance au fur et à mesure que ta doctrine se révélera à nous. Et c'est ainsi que nous t'avons prié dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.
Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.